Radio Rythme Bleu, les 17h45, Info Soir, c'est avec vous, Michael Gineski.
Pour Manuel Valls, les négociations de ces derniers jours ont été une étape décisive. Le ministre des Outre-mer est reparti hier soir après 4 jours sur le territoire. Il doit revenir à la fin du mois. Le Conseil d'État estime que c'est la durée indéterminée de la suspension de TikTok en mai 2024 qui était illégale. Une décision qui avait été prise par Gabriel Attal, le premier ministre de l'époque durant les émeutes. Quand une start-up calédonienne décroche un marché public en métropole, la start-up Fire Tracking, spécialisée dans la détection de départ de feux de forêt, va exporter son produit dans l'Hexagone. Des cours grandeur nature pour des étudiants de l'UNC. Les troisièmes années en licence SVT étaient sur le terrain dans la mangrove à Wemo ce mercredi matin. Dans le Pacifique, l'Australie accuse la Chine d'ingérence dans la campagne électorale actuellement en cours sur l'île continent. Le sport du football, pas de miracle pour les joueurs de Tiga Sport. Pour la deuxième journée de la O-League, les représentants calédoniens ont subi la loi des Néo-Zélandais d'Auckland City, 2-0. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Retour sur les négociations qui se sont déroulées ces derniers jours entre le ministre des Outre-mer et les délégations des groupes politiques calédoniens. Une déclaration commune des parties engagées dans les discussions conduites par le ministre d'État sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie a été rendue publique hier soir. Elle affirme qu'un moment décisif s'ouvre pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Elisabeth Noir.
Oui, ce sont les premiers mots de cette déclaration commune qui n'est pas signée mais qui a été rendue publique à l'issue de 4 jours de négociations intensives. Une déclaration très factuelle qui rappelle que le Premier ministre François Bayrou a fait de la recherche d'un accord sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie l'une des priorités de son action gouvernementale et qui indique que depuis, le gouvernement s'est attaché par la voix de Manuel Valls et d'Éric Thiers à renouer le dialogue et à restaurer la confiance entre les partenaires. La déclaration parle de la mise en œuvre d'une méthode claire et partagée, fondée sur le dialogue, la responsabilité et la transparence, et elle retrace les séquences qui se déroulent depuis le mois de février. Alors on le sait, à l'issue des négociations qui se sont déroulées pendant 4 jours au Haut-Commissariat, et avant de quitter la Nouvelle-Calédonie, Manuel Valls a affirmé pour sa part qu'une étape décisive a été franchie, et il a annoncé son retour dès le 29 avril pour, espère-t-il, aboutir à un accord global. Le ministre des Outre-mer avait remis dimanche aux partenaires calédoniens un projet d'accord politique et il croit que sur cette base, un accord est possible. De son côté, Sonia Bakes, qui était notre invitée du matin à 7h30, estime qu'un accord est effectivement possible si tout le monde est de bonne foi et de bonne volonté. Pour la chef de file de la délégation loyaliste, les choses avancent à petits pas. Elle salue toutefois la méthode choisie par le ministre des Outre-mer, qui privilégie, dit-elle, le pragmatisme et la souplesse en alternant les plénières et les bilatérales. Et sans dévoiler le contenu du projet d'accord, Sonia Bakes évoque les thèmes des discussions.
Les thématiques sont connues, hein, et ce sont celles qui étaient dans le document qui ne nous convenaient pas, hein, le document initial qui a été produit par le ministre sans qu'on l'ait accepté, hein, donc ce document ne nous convenait pas. Mais les thématiques, elles sont là, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes thématiques. Hein. C'est le droit à l'autodétermination, c'est le corps électoral, c'est la gouvernance interne, hein, pour nous c'est plus de compétences aux provinces, c'est toujours les mêmes thématiques.
Projet la question, de société,
projet de société, le développement économique, c'est un point qui est important pour nous aussi, parce que les Calédoniens sont quand même en souffrance dans le quotidien, et donc l'idée que s'il y a un accord, l'État puisse l'accompagner d'un point de vue du développement économique, c'est un point important.
Il reste des points durs, indique Sonia Bakes, et pour les partisans du maintien dans la France, la ligne rouge, c'est bien sûr le respect des 3 référendums. Les indépendantistes, à l'inverse, réclament toujours une trajectoire inéluctable vers l'indépendance. Mais malgré ces divergences, les discussions se déroulent dans une ambiance constructive.
Il y a des moments tendus, on a une histoire longue mais récente qui est quand même très lourde. Et on est quand même un certain nombre à ne pas pardonner et à ne pas faire confiance. Et donc ces discussions, elles se passent dans ce contexte-là. Donc forcément, c'est tendu, forcément, il y a des moments où on voit bien que la plaisanterie n'est pas de mise. Mais malgré tout, il y a des vrais moments constructifs, c'est-à-dire qu'on essaye quand même les uns et les autres de s'écouter, de s'entendre pour essayer de trouver une voie acceptable, parce que c'est évidemment l'intérêt de tous les Calédoniens de trouver un accord.
Manuel Valls reviendra donc le 29 avril. Les partisans de la France auraient d'ailleurs aimé qu'il revienne plus tôt, mais cette période d'entre-deux va être consacrée à la poursuite des discussions.
D'ici là, nous allons continuer à discuter en plénière, c'est-à-dire dans le format dans lequel on était, avec un système de visio avec Paris, sans doute avec Éric Thiers et l'équipe de Manuel Valls. Donc on va essayer de continuer à avancer pendant cette période-là, parce que l'idée du ministre, et je ne sais pas s'il y arrivera, il est évidemment à la fois très positif et très optimiste et très volontariste, mais je ne sais pas si son objectif sera atteint, mais en tout cas le sien, c'est d'arriver à trouver un accord et à signer cet accord la prochaine fois qu'il vient. Donc pour ça, il faut évidemment avancer pendant l'intervalle où il n'est pas là, pour essayer de se donner toutes les possibilités, toutes les chances que ça aboutisse à la fin du mois.
C'est une question de volonté de la part de ceux qui sont autour de la table, insiste Sonia Backès. Ont-ils ou non la volonté de faire des concessions et quel est le mandat dont ils disposent ? Pour leur part, les partisans de la France veulent que l'accord soit basé sur la reconnaissance que tous les Calédoniens sont égaux en droit. Ils vont tenir des réunions publiques dans les prochains jours et les prochaines semaines pour informer les Calédoniens.
Merci Elisabeth Noir. Une interview de Sonia Backès qui est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc. Le Conseil d'État juge illégal le blocage du réseau social TikTok lors des émeutes insurrectionnelles débutées en mai 2024. Le Conseil d'État avait été saisi par deux associations, dont la Ligue des droits de l'homme nationale, et par des particuliers qui reprochaient au Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, d'avoir fait interrompre l'accès au réseau social TikTok. Lionel Sabot.
Dans un communiqué de presse diffusé la nuit dernière, le Conseil d'État rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence vieille de plus d'un siècle, établie à l'occasion de la Première Guerre mondiale, la survenue de circonstances exceptionnelles permet bien à l'autorité administrative de prendre en urgence les mesures indispensables pour faire face à la situation du moment. Le Conseil d'État juge par ailleurs que la situation en Nouvelle-Calédonie, marquée notamment par des émeutes d'une très grande violence ayant entraîné plusieurs décès et de façon générale des atteintes aux personnes et aux biens d'une particulière gravité, c'est bien le moins qu'on puisse dire, constituait bien des circonstances exceptionnelles. La plus haute juridiction administrative écrit également qu'au moment des faits, le Premier ministre, constatant le rôle joué par l'utilisation du réseau social dans la propagation rapide des troubles, était en droit, en l'absence d'autres moyens techniques immédiatement disponibles, d'édicter une mesure d'interruption provisoire d'accès à TikTok. En revanche, dit encore le Conseil d'État, une telle mesure ne pouvait être légalement prise qu'à la condition que sa durée soit fixée dès le départ. Or, souligne le Conseil d'État, en mai 2024, le Premier ministre a décidé d'une interruption totale du service pour une durée indéterminée. C'est pourquoi la haute juridiction juge que le blocage de TikTok en mai 2024 était illégal, car il a, et je cite, « porté une atteinte disproportionnée » aux droits et libertés invoqués par les requérants. Fin de citation.
Un rendez-vous sur l'antenne d'RRB, c'est le procureur de la République, Yves Dupas, qui sera demain notre invité du matin à 7h30. Il sera interrogé sur les différentes affaires en cours et notamment sur la vidéo insurrectionnelle publiée par le groupe Initiative Bakou. Après la plainte de Sonia Backès et le signalement du haut-commissaire, le parquet de Nouméa s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de Paris. Yves Dupas nous expliquera pourquoi. Une interview du procureur de la République République à suivre demain à partir de 7h30 sur RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate vous paraît-elle justifiée ? Si vous la trouvez justifiée, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 20% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS comprennent, après la publication de son communiqué, les raisons qui ont conduit Yoann Le Courrieux à s'abstenir lors du vote du budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 80% à ne pas comprendre ces raisons. Un dernier rendez-vous d'antenne. Les inquiétudes autour de l'offre de soins en Calédonie restent vives, alors que de nombreux praticiens manquent aujourd'hui sur le territoire. Au-delà de la qualité des soins, c'est aussi l'écosystème économique de la santé qui est touché. Et nous en parlerons demain midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra Patrice Gauthier, président de la FPLS, la Fédération des professionnels de santé. François Delbois, vice-président de l'Alliance des infirmières calédoniennes et le président de l'Opus, Eric Catherine, directeur de Pacific Care, et Xavier Delagneau, président du syndicat des chirurgiens dentistes. Les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, ce sera à suivre donc demain, juste après Infomag, votre grand journal de la mi-journée. Il est 17h passé de 55 minutes. Restez avec nous, la suite de l'actualité, c'est juste après une page de publicité.
Voilà. 8 musiciens.
musiciens du territoire bourrés de talent ont décidé de rendre hommage à l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, Carlos Santana. Un mélange unique de rock, de blues, de rythmo latino, avec des titres comme Black Magic Woman, Oye Como Va ou encore Europa. Bref, une soirée inoubliable vous attend vendredi 4 au On The Beach. Vous pouvez réserver sur ticket.nc 2600 francs pré-vente ou 3000 francs sur place. Ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Tribute to Carlos Santana, le concert vendredi 4 au On The Beach.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Michael Gineski.
Les vols d'Air Calédonie à nouveau bouleversés et la compagnie domestique annonce sur son site des perturbations à prévoir dans les prochains jours. Un des appareils d'Air Cal est cloué au sol à Lifou, victime d'une fuite hydraulique et des techniciens ont été envoyés sur place pour les réparations. En attendant, deux rotations au départ de Nouméa ont été supprimées aujourd'hui, une sur l'île des Pins et l'autre sur Marais. Demain, un vol sur Lifou est d'ores et déjà supprimé ainsi qu'une rotation sur UVA reprogrammé à vendredi. En bref, encore une opération anti-stup hier à l'aérodrome de Magenta, avec notamment la présence d'un chien spécialisé dans la détection de produits stupéfiants. Les policiers nationaux ont procédé au contrôle d'identité, aux fouilles des personnes présentes, mais aussi des bagages à l'arrivée et au départ des avions. Une fouille du fret, des cartons et des glacières présents sur les chariots a également été effectuée. Il n'y a pas eu de saisie de stupéfiants. Le débat autour des protections de marché se poursuit. Le syndicat des importateurs estime que c'est l'encre qui empêche la Nouvelle-Calédonie de progresser, Jean-François Baudin.
Dans un communiqué, le SIDNC souligne que ces dispositifs de protection, que ce soit les taxes, les mesures stop ou autres quotas, tout en prétendant encourager le développement économique local, ont systématiquement pénalisé les consommateurs en les obligeant à payer des prix artificiellement élevés. Le syndicat des importateurs pose la question de savoir si ces politiques ne servent qu'à maintenir des rentes et des avantages aux dépens de toute population. Il conclut ce communiqué en affirmant que ce modèle n'est pas un moteur pour l'économie.
Au chapitre syndical, ce communiqué de la CSTC-FO qui annonce qu'à la SLN, après les élections au sein de l'entreprise fin mars, Force ouvrière obtient deux sièges, tout comme l'USWINC, la SGTINC et la CSTC-NC obtiennent un siège chacun.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Quand une start-up calédonienne décroche un marché public en métropole, la start-up Fire Tracking, spécialisée dans la détection automatique de départ de feux de forêt, va exporter son produit dans le département de l'Indre-et-Loire. Il s'agit d'un outil qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de lutter plus efficacement contre les feux de brousse. Les explications de Jean-Simon Chaudier, il est cofondateur de cette start-up qui a vu le jour en Calédonie.
Avec Fire Tracking, en fait, on va aider les pompiers, les collectivités, les gestionnaires de forêt à détecter automatiquement, précisément et extrêmement rapidement les départs de feux de forêt grâce à des caméras qu'on va installer sur des pans hauts, comme par exemple des antennes OPT, qu'on va coupler en fait à une intelligence artificielle qu'on a nous-mêmes conçue et qui va être capable de détecter les feux en moins de 3 minutes. En fait, la genèse du projet, c'est parti de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on brûle chaque année 10 à 15% de la surface des forêts, c'est équivalent à ce qu'on brûle sur l'ensemble du territoire hexagonal en termes de surface. C'est énorme. Donc on a accompagné en fait la province sud pour pouvoir identifier des solutions qui permettent de détecter automatiquement des feux de forêt. Dans le cadre de cette étude, on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'il y avait des solutions qui existaient sur le marché, mais qui étaient extrêmement chères et très peu performantes. Je prends un exemple, une caméra installée sur un point haut va générer plus de 100 alarmes par jour, donc 95% de fausses alarmes. Donc on est obligé en fait d'avoir des pompiers derrière pour gérer un peu le sapin de Noël, entre guillemets, et chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc ça fonctionne pas très bien. Ce qu'on avait vu aussi, c'était qu'aux États-Unis, il y avait une start-up, notamment intégrant la dernière technique d'intelligence artificielle, avait réussi à franchir des nouveaux paliers de performance. Donc moi, personnellement, venant plutôt de ce monde-là, je me suis dit, on va pas laisser les Américains partir tout seuls. C'est comme ça que Fire Tracking est né.
Cet outil va donc s'exporter et au passage, la start-up calédonienne va pouvoir continuer de se développer avec, pourquoi pas, des ambitions à l'international.
Aujourd'hui, on est déployé en Nouvelle-Calédonie et on est également en cours de déploiement dans le département de l'Indre-et-Loire. On va surveiller la quasi-totalité du département, ça représente plus de 1000 km² de forêt. Premier grand déploiement, le déploiement à grande échelle de notre société. En fait, ce qui a fait la différence, c'est d'une part une véritable avance technologique, notamment en matière d'intelligence artificielle. Et ça, c'est quand même une vraie fierté, finalement, de pouvoir représenter la Calédonie sur ce sujet et de montrer que on sait faire des choses quand même extrêmement bien sur le territoire. Et d'autre part, ça a été ce qui a fait qu'on a gagné, c'est d'avoir réussi à bâtir des partenariats avec des acteurs en France qui vont nous accompagner pour pouvoir livrer les projets. Nous, on est spécialistes du logiciel de l'intelligence artificielle. Pour pouvoir aller installer des caméras sur des points hauts, en hauteur, et faire des tranchées de génie civil pour pouvoir amener l'électricité ou ce genre de choses, on n'est pas spécialistes. Donc c'est pour ça que s'appuyer en fait sur des partenaires qui sont présents localement, ça permet d'augmenter la qualité de nos services. Notre solution à la fois apporte des bénéfices sur la Calédonie, mais notre capacité aujourd'hui à nous exporter, ça permet aussi finalement de faire rentrer davantage de richesses sur le territoire.
Les dispositifs pour favoriser l'innovation et la tech en Nouvelle-Calédonie ont permis à la start-up de se lancer avec un outil au service des collectivités et de la population. On retrouve Jean-Simon Chaudier.
On tient particulièrement en fait à remercier la province sud parce que c'est notre premier client. C'est les premiers qui nous ont fait confiance et qui ont réussi à mettre en place un environnement qui était favorable à le développement et à l'innovation et à l'émergence de notre solution. C'est ce qui a permis aujourd'hui à la collectivité du Mont d'Or en particulier d'avoir un système de détection des feux qui est extrêmement performant avec des résultats qui sont très concrets. C'est un bénéfice qui est extrêmement tangible pour le territoire. C'est moins de moyens aériens pour pouvoir aller lutter, ce qui coûte extrêmement cher. C'est également moins de risques pour les sapeurs-pompiers. Et au-delà de ça, c'est aussi un moindre coût pour pouvoir restaurer la végétation derrière et revégétaliser. C'est une vraie fierté d'avoir une solution calédonienne qui est déployée à grande échelle. D'une part, ça confirme, comme j'évoquais tout à l'heure, notre avance technologique, mais aussi ça confirme toute notre stratégie de développement. Et c'est vraiment un jalon clé qui, maintenant, va nous permettre de concrètement accélérer, en particulier avec une levée de fonds qu'on a amorcée avec l'aide d'une banque d'affaires et qui va nous permettre vraiment d'accélérer notre déploiement et notre développement à l'international, soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Australie. Et d'autre part, de pouvoir se doter d'un véritable centre de recherche pour pouvoir créer et apporter des nouveaux services. Par exemple, nos caméras, elles peuvent détecter les feux. On peut aussi détecter des zones impactées par des inondations. Derrière, apporter toujours plus de services à nos clients, en particulier dans la thématique des risques.
Jean-Simon Chaudier, cofondateur de la start-up Fire Tracking, un outil qui a également vu le jour avec l'aide du gouvernement, notamment à travers le programme Territoire d'innovation. Des étudiants dans la mangrove. L'Université de la Nouvelle-Calédonie organisait aujourd'hui une visite de terrain pour un groupe d'étudiants en troisième année de licence Sciences de la Vie et de la Terre. Leur salle de classe ce matin, c'était le sentier découverte de la mangrove à Nouméa, au départ de la Maison de la Biodiversité à Sainte-Marie. Une expérience qui a fortement plu à ces jeunes dont la vocation est de se spécialiser dans ces disciplines.
Je trouve que c'est super de pouvoir appliquer la théorie qu'on a eue du coup en cours magistral sur le terrain. Ça permet de mieux retenir les informations et surtout d'avoir une vision de ce qu'on peut faire potentiellement plus tard sur le terrain et pas simplement du théorique.
Ouais, c'est une super initiative de mettre les futurs scientifiques sur le terrain. Ça ne peut qu'être bénéfique pour notre réussite, je pense.
On a fait 3 ans que dans des salles et quand on veut être scientifique sur le terrain, après c'est vrai que ça manque cruellement de sorties. Donc là, c'est un beau projet. Les enseignements de terrain, c'est au moins aussi important que les cours théoriques en salle.
Alors moi, je trouve ça aussi très bien. Ça nous permet de voir la vraie vie d'un métier de scientifique. On est sur le terrain, quoi. On bouge, on voit les vraies choses. C'est pas que de la théorie.
L'objectif est de permettre à ces étudiants de mettre en pratique les enseignements théoriques. Cyril Marchand est professeur de sciences à l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
L'an passé, l'université a été lauréate d'un projet qui s'appelle Diversité. Nous avons obtenu près de 2 milliards pour modifier nos façons de faire de l'enseignement, pour modifier nos activités de recherche, notamment avec ce qu'on appelle de la projection terrain, c'est-à-dire sortir nos étudiants, les emmener sur le terrain pour qu'ils découvrent les écosystèmes, pour qu'ils découvrent les cultures et les langues calédoniennes et qu'ils pratiquent eux-mêmes les instruments. Pédagogiquement, c'est beaucoup plus performant, on va dire, et les étudiants sont beaucoup plus intéressés que dans une salle de classe. Mais pouvoir le faire, il faut des moyens, des instruments, il faut être en capacité de les sortir, donc du transport, si c'est en dehors de Nouméa, de l'hébergement. Et grâce à ce nouveau projet Diversité, nous sommes en capacité de le faire. Alors là, nous sommes dans la mangrove, un écosystème d'intérêt patrimonial pour la Nouvelle-Calédonie. La mangrove est un piège pour le CO2, pour les gaz à effet de serre. Les stocks de carbone sont importants dans la biomasse, dans le tronc, dans les feuilles, mais aussi dans les sols de mangrove. On considère qu'un sol de mangrove mangrove va contenir 10 à 100 fois plus de carbone qu'une forêt classique, parce que justement le sol est gorgé d'eau. Mais malgré le fait que le sol soit gorgé d'eau, il y a quand même de la décomposition, et les sols émettent quand même un peu de CO2, et les étudiants sont en train de travailler avec des analyseurs infrarouges pour mesurer les émissions de CO2, donc il y a un gaz à effet de serre, depuis la colonne d'eau ou depuis le sol de la mangrove.
L'Université de la Nouvelle-Calédonie qui souhaite multiplier les visites de ce type pour les étudiants concernés, mais aussi dans d'autres disciplines grâce au déploiement du projet Diversité en partenariat avec l'IRD et le CNRS. Il est 18h passé de 5 minutes, une dernière page de publicité dans ce journal avant de voir l'actualité dans la région Pacifique et le sport.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB recherche un commercial performant. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc.
C'est le grand retour du Totem sur RRB. Un jeu que vous adorez et qui vous permet de découvrir un objet mystère. C'est le moment d'affûter vos petites cellules grises pour trouver le totem et pour décrocher la cagnotte. En jeu, des bons d'achat offerts par notre partenaire les marques calédoniennes et tricorillées. Le retour du totem, c'est le 7 avril sur Radio Rythme Bleu.
Info soir, Michael Juneski.
À l'actualité dans le Pacifique, l'Australie accuse la Chine d'ingérence dans la campagne électorale actuellement en cours sur l'île continent. Pékin prétend que ça n'a jamais été le cas. Tous les détails avec notre correspondant à Sydney, Jean-Pierre Zajac.
Cette position officielle de non-ingérence de Pékin dans les affaires internes d'autres pays semble avoir été ignorée par l'un de ses organes de presse, le Global Times. Dans un éditorial plutôt cinglant, le quotidien a d'abord fait l'éloge du premier ministre australien, Anthony Albanese. « Il dit toujours la vérité », a déclaré le Global Times, avant de s'en prendre au leader de l'opposition australienne, Peter Dutton, qu'il a ouvertement accusé de paranoïa et d'opportunisme politique. « Il bat les tambours de la guerre », a estimé le journal, avant d'affirmer que, je cite, « La Chine n'est pas une menace, l'Australie peut dormir tranquille ». Le quotidien a également reproché à Peter Dutton de tenter de bloquer l'amélioration des relations sino-australiennes, autant d'accusations que l'intéressé a toutefois choisi d'ignorer. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Du football dans la région avec la deuxième journée de la Ligue des Champions d'Océanie. Etigaspor, représentant calédonien dans la compétition, s'est incliné cet après-midi face aux favoris, Auckland City. Les Calédoniens perdent sur le score de 2-0. Un premier but encaissé à la 24e minute de jeu. Le deuxième dans les dernières secondes du match dans les arrêts de jeu. Les joueurs de Tiga ont pourtant tout essayé. La réaction du coach de Etigaspor, Léo Lopez.
Non, on peut être qu'une nouvelle fois fier des garçons. On a essayé de jouer notre chance à fond jusqu'au bout. Jusque dans les derniers instants, on perdait 15-0 et on voulait vraiment essayer de repartir avec au moins un match nul. On était parti dans l'idée de tout faire pour essayer de perturber cette magnifique équipe d'Auckland et essayer de les faire douter. Et pourquoi pas remporter les 3 points, mais on voulait surtout aussi dans un deuxième temps ne pas perdre. Donc c'est pour ça qu'on a mis toutes nos forces sur cette fin de match pour essayer d'égaliser. Mais voilà, on n'a pas réussi à mettre assez de ballons dans le camp adverse, dans la surface de réparation, pour avoir une opportunité. Et Auckland a été clinique en contre sur un de ses seuls rares contres. Et bien, ils ont marqué le deuxième but et C'est ce qui fait les grandes équipes.
Lors de la première journée, Tiga avait battu les Fidjiens du Rewefc 4-2. Les Néo-Zélandais s'étaient imposés 1-0 sur l'AS Pirae. Auckland City prend donc les commandes de cette poule. Prochaine rencontre pour Tiga, ce sera contre les Tahitiens de l'AS Pirae. On retrouve le coach de Tiga Sport.
Mais on retrouve nos meilleurs ennemis, nos frères Tahitiens, pour un final, pour un match encore avec une haute importance, parce que ça va déterminer celui qui termine deuxième pour passer au premier, on ne sait pas, mais celui qui se qualifiera pour les demi-finales. Et voilà, on savait tous que ce dernier match contre Pirae risquait d'être décisif. C'est le cas, ils ont fait le boulot en gagnant 1-0 contre Rewa. Maintenant, on va essayer de récupérer au mieux, parce que les garçons sont très fatigués. C'est la première fois depuis un an qu'on enchaîne deux matchs en 48 heures, en 72 heures. Et là, il faut qu'on enchaîne un troisième match en 6 jours, un troisième match de très haut niveau. Et du coup, voilà, on va bien se reposer, on va bien analyser ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Et on va essayer d'analyser cette équipe de Pirae, qui est une très belle équipe aussi et qui va jouer son bateau contre nous pour leur place en demi-finale.
Léo Lopez, le coach de Tiga Sport, le dernier match donc contre les Tahitiens de l'AS Pirae avec une place en demi-finale en jeu. En cas de victoire, ce sera samedi sur les terrains des îles Salomon. 18h, passé de 10 minutes, l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Michael. Alors cette nuit sur l'ouest, les averses issues du relief s'attarderont en soirée, puis le temps deviendra sec et peu nuageux. A l'inverse, des paquets nuageux et quelques averses circuleront sur le reste du territoire, s'accumulant au fil des heures sur la côte est. Sur l'ouest, le vent deviendra variable faible. Sur le reste du territoire, il soufflera de 10 à 15 nœuds d'est. Le mercure affichera 22 à 26 degrés, voire 21 degrés, ce sera sur l'ouest. Demain matin, le soleil dominera largement sur l'ouest. Ailleurs, il sera contrarié par des nuages bas qui circuleront en déposant parfois de faibles averses. Le vent d'est à nord-est soufflera entre 5 et 10 nœuds en général. Localement, 10 à 15 nœuds aux pointes nord de la Grande Terre. Sur l'ouest, il sera variable faible avec des accélérations de nord-est dans certaines vallées, Michael.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est avec vous que se referment les pages de ce journal. 18h passées de 11 minutes. Dans un instant, l'actualité nationale et dans le monde. Ce sera suivi de l'interview d'Europe 1. Sonia Mabrouk reçoit ce soir l'eurodéputé Marion Maréchal. Belle soirée, toujours à l'écoute de nos programmes.